à la découverte de la création sonore et radiophonique. Une émission de 48 FM proposée par Guillaume Delorme. Et bienvenue sur 48 FM pour une nouvelle émission dédiée à la création sonore, à la découverte de cette création sonore, nouvel art radiophonique que nous avons découvert déjà l'été dernier et tout au long de la saison. Pour cet été, nous allons vous proposer un voyage en trois étapes. Première étape, ce sera d'abord des luttes. Deuxième étape, ce seront des voyages en musique et en paysage sonore. Et troisième partie de l'été, ce sera la préparation de l'école avec un feuilleton sur une école pas comme les autres qui a été expérimentée. Nous commençons cet été, ce soir, avec un documentaire qui s'intitule « Des patates et des luttes ». Un documentaire donc de Pierrette Pastels, Corinne Ricuort et Hélène Hockey. En suivant la piste de la pomme de terre, des chemins de traverse s'esquissent, se ramifient, convergent. Nous allons découvrir que le tubercule, anciennement appelé morelle tubéreuse, est aujourd'hui devenu la nouvelle passionnariat des luttes environnementales. D'une écriture enjouée, ce documentaire propose une balade poétique et festive au travers de luttes en Belgique où la patate est tissée au rang d'objet politique. On y croise des amateurs et des amatrices de pommes de terre, des paysans, des paysannes, des penseurs, des penseuses, des militants, des militantes, des activistes, des habitants, des habitantes de zones à défendre. La patate y est tantôt plantée, tantôt vendue et parfois même arrachée, peut-être même jetée. Devenue emblématique, elle permet de s'immerger le temps d'un documentaire au sein de combats contemporains. La réalisation et la prise de son sont de Pierrette Pastels, de Corinne Ricuort et de Hélène Hockey. Le montage, le mixage et la création sonore de Flavien Gillier. C'est une production Alternative Culture avec le soutien du FACSR. Et c'est un programme proposé par donc l'ACSR, l'atelier de création sonore belge. Merci à eux pour ce documentaire qu'on écoute maintenant.
Adriana, Amandine, Blanche. Chérie. Corolle.
Il n'y en a pas qui portent mon prénom.
Daisy. Élodie.
Mais je m'appelle Josine. Josine Marchal, je suis née dans le Brabant-Wallon et j'ai épousé Gilbert Cardon, donc qui est lui un Picard. Voilà. Et donc
si je pense pomme de terre, la première chose que je vois là maintenant, c'est les pommes de terre au printemps dans mon jardin. Début été, quoi, quand elles commencent à prendre vraiment toute la place comme ça. Et pour moi, la pomme de terre, c'est un vrai symbole. C'est la sécurité, c'est le symbole de l'abondance. Parce que la pomme de terre, elle est quasi dans tous mes repas. Voilà, le lundi des patates, le mardi des patates, le mercredi des patates. et les patates à l'eau.
Et tu serais pas un peu feignant sur les bords?
Si, même beaucoup.
Donc voilà, pour moi, il n'y a pas plus rassurant qu'une pomme de terre. La patate, elle, c'est un symbole fort, quoi. Voilà.
Des patates et des luttes. Un documentaire de Hélène Hockey, Pierrette Pastels et Corinne Ricuor.
Bah, si on me dit patate et lutte, moi, je vois des gens qui crèvent de faim et qui enfin trouvent la patate.
Ben on est à Moucron,
la jeunesse, tous les trucs, hein.
Au 58 rue Charles Quint. Il y a la bibliothèque ici, et puis il y a la grande salle où il y a l'achat groupé de semences. Des gens appellent ça granothèque. On a fondé Fraternité ouvrière ici en 1969. C'était destiné à faire de l'éducation permanente hors des sentiers battus, trop battus. Et donc, cette éducation permanente, ça veut dire comme la JOC, comme les équipes populaires, comme les femmes prévoyantes socialistes, donc où on continue d'apprendre quand on est déjà vieux même. Hein.
Que c'est inofficiel, mais c'est comme ça que c'est prévu. Oui. Ça va être un peu mouillé, je suis désolée. Cette partie de la parcelle ici était jusqu'à récemment encore cultivée par Antonio, un espagnol qui doit avoir 80 ans et qui nous a récemment filé la clé en disant « c'est à vous ». Et petit à petit, c'est comme ça que les vieux ont donné au collectif qui maintenant essaye de pratiquer une culture de permaculture sur ces terres-là. Donc on est triste qu'il est parti, mais on essaye de reprendre son bout de terrain. Donc ça nous fait quand même un grand espace. On est 13 jardiniers à peu près à venir plus ou moins régulièrement. Mais on est aussi beaucoup d'arbres fruitiers, je ne sais plus combien. Plein de fruitiers, plein d'insectes, beaucoup d'oiseaux. Quand je dis nous, je pense aux humains, mais je pense aussi aux non-humains qui habitent beaucoup plus le lieu que nous, finalement, on vient les dimanches. On entend le train qui passe. On peut pas oublier qu'on est dans la ville, mais on peut quand même se fondre avec les plantes qui demandent beaucoup de patience. Avec le temps, je sens comment le jardin m'attend plus que je vais le chercher.
Fraternité ouvrière, pour rester dans une historique, qu'il y a des gens qui travaillent et qui doivent toujours se défendre contre l'agression de l'agression de ceux qui veulent gagner beaucoup plus, quoi. On est très content de poursuivre ce travail à travers l'action du jardinage, parce que c'est un des besoins humains, c'est un problème humain d'aujourd'hui, que les gens puissent acquérir de la nourriture saine, quelque chose d'agréable pour eux, et qu'on puisse conserver des terrains de manière à continuer d'avoir des jardins, d'avoir des espaces verts, de protéger la terre, parce que la terre doit nourrir les humains. Votre potager, il vous pose des questions. Hein, c'est souvent comme ça. Oui, c'est un acte militant. Hein. C'est évident, c'est un acte qui transforme des choses. Il fait poser des questions.
Comment je m'ai intéressé à ça? Oui, je ne sais pas. C'est vraiment des injustices aussi. Mes parents sont des artistes qui sont se retirés à la campagne. Et quand je suis grandi, j'ai vu l'énorme transformation en fait, de l'agriculture en Flandre. Il y avait des petites paysans encore avec des chevaux, tu vois, mais qui étaient tous obligés d'investir et de changer vers l'agro-industriel. Et ça a détruit, en fait, l'agriculture autour. C'était assez violent, en fait. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé depuis que je suis enfant, à cause de cet agriculteur pesticide. Parce que ces pesticides et ces fertilisateurs, ils ont pollué le puits d'eau de mes parents. Donc voilà, j'étais sensible à ça, peut-être, à cause de ça. Donc mon nom, c'est Kobe Mathijs, et je suis artiste, activiste et jardinier. Je fais beaucoup de recherches sur comment les propriétés intellectuelles affectent les écologies des pratiques artistiques. Et j'ai beaucoup travaillé aux questions des droits d'auteur. Et dans ce chemin-là aussi, j'ai travaillé pas mal sur les questions de brevets après et comment ça change les rapports pour les jardiniers, etc. Et moi, j'avais déjà fait plusieurs expos, en fait, sur ces questions des OGM parce que c'est quand même seulement depuis les OGM qu'on puisse parler des propriétés intellectuelles au niveau des plantes. Avant, ça, c'était pas possible. Parce qu'avant, les plantes, tu ne pouvais pas les protéger. Parce que c'était des choses naturelles et pas inventées.
Un des expériences qui, pour ça je propose une balade, un des choses qui me plaît à chaque fois que je viens ici, c'est que c'est rare en ville de marcher en pente, en fait. Comme ça, non? Sans béton, entre la boue et tout ça. Donc, je propose qu'on fasse un tour par la gauche.
Nous avons été membres du mouvement Jocite étant jeunes, et c'est ça qui nous a donné le goût de faire quelque chose de militant, d'actionner une réflexion. Je trouve que c'est un respect des autres gens que d'actionner une réflexion pour que le monde aille mieux. Tout bonnement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire que ça.
Je ne viendrai pas demain, je viendrai la semaine prochaine.
D'accord.
Je vais m'occuper. Bonne continuation.
Je vais avoir 84 ans. Je suis militante depuis 50 ans. À 12 ans déjà. Je crois que je l'étais déjà du fait de ce que j'entendais. J'ai entendu des leaders d'origine ouvrière faire des discours quand j'avais 12 ans et j'étais d'accord avec ça. Je trouve que... Enfin, j'ai connu la misère, j'ai connu la misère. Alors pendant la guerre, c'était encore plus grave puisqu'on avait presque rien à manger. C'était très dur, quoi. Et donc, je trouvais que c'était pas juste.
Je sais pas si vous entendez les oiseaux. Peut-être on arrive trop tard pour ça, mais on a même vu des toc toc toc. Ouais. Mais je veux pas vous parler du potager. Vous voulez parler des patates, non? C'est un légume qui pousse relativement facilement. C'est aussi un légume qui est facile à planter. C'est un légume qui prend beaucoup de place. C'est un légume qui est facile à partager. C'est un légume qu'on peut aussi utiliser comme arme. On peut la lancer, la patate, s'il faut. La patate, on l'a revue aussi dans les champs de lutte à Bure. On l'a revue à la ZAD Patate à Paris. On l'a vue aussi à Notre-Dame-des-Landes. Ils ont fait une plantation de patates. Donc la patate, elle relie beaucoup de luttes. Et à travers elle, elle fait exister, à mon avis, une agriculture populaire, une agriculture, comment on peut dire, il y a un beau mot pour ça, vernaculaire. Et voilà, c'est ça la patate que je vois.
Le pomme de terre, ça fait partie de l'histoire globale capitaliste, si tu veux. Parce que ça vient depuis Colombes, donc des Andes vers ici. Donc le pomme de terre, il est quand même aussi au milieu de cette histoire de l'agriculture industrielle, avec tous ces problèmes aussi, en termes de monoculture, mais aussi les pesticides, en fait, et les fertilisateurs. Une forte lobby aussi de l'industrie des frites surgelées. Mais le but de votre documentaire, c'est le rôle de pommes de terre dans les résistances, si j'ai bien compris.
Dit is een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat wil zeggen dat we allemaal mee verantwoordelijk zijn voor wat dat er gebeurt. Chaque personne est responsable lui-même pour ce qui se passe. Donc c'est très important de pas être violent aussi. Aan de overkant wachten zo'n 60 bange politieagenten. Ja, 60 policiers qui nous attendent. Oui. On va pas être provoqué par les police ni par les pro-OGM. Wij zullen dit geweldloos doen. Wij zullen dit ook traag doen. On va être lentement.
Alors là, on a eu un impact, c'est formidable ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu l'action qui a été retentissante, qui a été impressionnante. Il y a un ministre d'État qui est venu se présenter sur le champ le lendemain, qui a dit qu'il y aurait des poursuites, qu'il allait se passer quelque chose et tout ça. Puis il y a Barbara Vandey qui s'est fait exclure de l'université parce que simplement elle s'était exprimée ce jour-là. Et donc, c'est, en fait, ce procès a été une chance immense. Et c'était un des objectifs de l'action. Comment ça s'est passé? En fait, c'était un champ qui était un champ de patates génétiquement modifié.
C'était pas du tout un test qu'ils faisaient à l'université, c'était vraiment de la promotion pour donner une sorte de garantie aux agriculteurs, voilà, les OGM, tu peux compter dessus.
Et nous, en fait, on avait une patate bio qui aussi pouvait résister au mildiou, donc on a dit, on va les échanger, quoi. On a vu au loin ce grand champ avec des grillages tout autour. On a vu tous les policiers qui entouraient ce champ. Puis tout le monde y est allé. On a commencé à se mettre autour, à élaborer des stratégies pour faire tomber cette barrière. Des types qui ont sauté par-dessus, qu'il y en a qui se sont blessés même en essayant de faire ça. Des types qui creusaient des trous par en dessous. Et puis, à un moment donné, les gars ont commencé à rentrer à gauche, à droite, et les gars et les filles. Et ont commencé à arracher joyeusement les patates et à les échanger avec d'autres patates, avec des policiers qui leur couraient derrière et qui leur donner des coups de matraque, ça faisait très guignol, quoi, comme moment. Surtout que tu avais des types qui avaient des nez de clown.
C'était qui ces gens-là? C'est des artistes, mais ils jonglent avec des patates, tu vois, comme un clown qui jongle. Donc voilà, il est devenu ce terme patatiste.
On était considérés comme une association de malfaiteurs. On était 11 inculpés. Et pour, avant de parler de la suite, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a des gens qui se sont portés comparants volontaires, comme ça s'est passé en France. C'est les Français qui nous ont donné l'idée d'ailleurs. Et donc il y a une centaine de personnes qui ont dit bah, « Nous aussi on était là, on aimerait bien être jugés. » Alors les magistrats qui étaient complètement paniqués, qui disaient « Mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas instruire autant de gens. » Oui, d'accord, mais c'est bien 120 ou 500 personnes qui sont responsables de ce qui s'est passé, et pas 11.
On savait qu'il y a eu des possibilités et des risques, etc. Les procès sont là parce qu'ils essayent de criminaliser l'activisme, en gros. Et donc ils ont poursuivi ces 11 personnes-là comme une bande criminelle, qui était assez absurde, parce que ces 11 personnes ne se connaissaient même pas avant. Mais c'est à cause qu'on a dû s'organiser pour protéger l'un de l'autre, qu'on a se rencontré aussi, et qu'on était obligé aussi de continuer à travailler après l'action, et qui a créé aussi beaucoup de solidarité, en fait, entre les différentes activistes qui étaient présents. Dans le recours, ils ont laissé tomber les charges de bande criminelle. À la fin, on était juste condamnés pour vol sur des propriétés privées, disons. Vol des pommes de terre. C'est le procès qui a nous forcé de devenir une bande. Mais peut-être plutôt une bande de patatistes. Comment toi, tu es arrivé là-bas ?
Personnellement, si tu veux, j'y suis allé parce que j'ai vu un tract dans un magasin bio.
C'est juste en face du Verschuren. Et moi, j'avais déposé un paquet là-bas, mais tout le monde a posé des paquets partout. Donc, c'est complètement par hasard, en fait. Mais on a bien rigolé. Et puis, alors, tu vois, on a se rencontré comme ça. On est des voisins. Il habite dans le quartier.
Quand j'ai vu le track, j'ai dit c'est hors de question. Donc en fait, j'étais pas du tout relié aux luttes. Pas du tout un activiste. Pas du tout, du tout, du tout. Et maintenant, je suis ici et je suis. Tu vois, j'aurais pas été là si j'avais pas fait cette action ce jour-là. Donc ça vaut la peine. Tout ce que je peux dire, c'est que puisque je suis là, ça vaut la peine. Ouais, je m'appelle François. Et donc, j'ai participé à cette action à Wetteren d'échange de patates. Bah ici, je viens soutenir ces gens qui pensent qu'une maxi-prison, ici, c'est vraiment une erreur absolue, quoi. Et qui pensent qu'il faut réinventer plutôt le système des peines, réinventer le système judiciaire, surtout qu'il est moribond en Belgique. Et certainement pas construire des maxi-prisons dans un endroit d'abord perdu entre le train, le tram, la route, etc., très loin de la ville, donc avec des gens qui vont avoir du mal à visiter les personnes incarcérées. Et puis, en plus, avec des terrains qui sont utilisables pour y faire pousser des choses. Donc c'est important d'avoir des terrains où on peut faire pousser des choses. Je trouve ça plus beau que d'y emprisonner des hommes.
Gagner ma confiance en fait. On est ici au Kelbeek, à Aarn. C'est un petit village au nord-est de Bruxelles. C'est un peu entre le centre-ville et Zaventem en fait.
Ici c'est gros, un terrain, c'est 18 hectares.
C'est la fameuse terre des chicons, elle est bien noire, elle est bien fertile.
Il a fait une grande prison ici.
La plus grande prison de Belgique. C'est beaucoup trop grand pour être bien géré et beaucoup trop cher.
Et nous, qui fait les habitants d'ici, moi, je ne veux pas qu'il fait la prison. Je veux qu'il reste comme ça vivre.
Je m'appelle Camille et j'ai occupé le terrain pendant la première occupation pendant 9 mois. Et maintenant, c'est en fait la troisième occupation. Et donc, je me relance sur le terrain. Moi, je ne suis pas le seul. J'y crois toujours. En fait, on a réussi à retarder les travaux pendant 4 ans. Donc, pourquoi pas pouvoir les retarder encore 4 ans. On n'a pas encore épuisé tous les aspects juridiques, les possibilités juridiques. Il y a toujours, par exemple, un espoir de faire un recours à l'Europe. Et ça pourrait vachement retarder toute la chose. Et on observe très bien ce qui se passe sur le terrain. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans les permis, on accuse et on fait arrêter les travaux. Donc, il reste de l'espoir, certainement.
Ça va.
Hello, and you.
Bonjour.
And you. Welcome.
Thank you. À côté de la lutte écologique et de la lutte pour les terres arables, il y a un aspect hyper important sur toutes les ZAD, c'est apprendre à vivre ensemble. Et donc apprendre à vivre pas seulement avec d'autres ethnies, j'aime pas le mot race parce que c'est un faux terme, mais donc différentes ethnies. Il y a toujours aussi quelques sans-papes qui s'installent. Et à côté de ça, il y a toutes les autres luttes sociales comme le féminisme, les queers, mais aussi les vegans qui disent « Ah non, on mange plus de viande et puis non, on porte plus de cuir et des trucs comme ça. » C'est parfois dans une petite ZAD comme au Kelbeek, c'est très difficile de gérer aussi toutes ces tensions-là. Mais dans des plus grandes ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure, en fait, il y a de la place pour ça. Parce quand on est à 150 personnes, il y a moyen de se retrouver, de faire des petits groupes de travaux et de gérer ces choses-là. Et en fait, même si on perd un terrain de façon écologique, on a toujours gagné en social et en apprendre à vivre ensemble vraiment et l'intelligence collective. On apprend des outils en fait pour mieux communiquer entre tous ces petits groupes. Et ça, c'est une richesse qu'on ne perd pas finalement, même si on perd un terrain.
Ça va l'air, Serge ? On est arrivé ?
On vient voir si les patates sont fermes.
Isabelle.
Oh zut, j'ai oublié ma bêche.
Isabelle, merde.
Cher patatiste, je suis honorée de me retrouver parmi vous aujourd'hui parce que dans le monde, les choses ne vont pas bien. Je ne sais faire grand-chose, mais planter 2 ou 3 patates, par exemple, c'est un début.
Prendre un petit peu attention pendant 30 secondes. Donc, voilà, juste vous faire un petit briefing. Il y a à peu près 3-4 points. Dans un premier temps, ici, on est sur le terrain du Kelbeek. Cette partie ici, c'est à la régie des bâtiments. Du coup, c'est une propriété privée. Et du coup, là, on est tous à peu près en inégalité. Donc, il faut savoir que le côté public, c'est sur le chemin et de l'autre côté du pont. Juste pour que tout le monde le sache, que même si c'est illégal, ça peut être tout à fait légitime et c'est ce que nous pensons tous. Donc voilà.
Et là, ça ne fait pas marcher aussi.
Là, c'est les endroits où ça a été.
Ça, c'est les droits, ça, c'est que des chemins qui fait passer.
Mais là, il y a déjà des patates en dessous, c'est ça?
Oui, oui,
il y a des patates. Ok, mais tu vois, donc ça,
on fait marcher par ici, comme ça. Et ça marche par là-bas aussi.
J'ai à un moment donné.
Bah, ils vont sans doute vouloir débarquer avec des pelleteuses. Et donc, on pourra faire autant de communiqués de presse qu'on veut. Ça ne marchera pas si on n'occupe pas le terrain, quoi. Et donc, les patates, c'est le prémisse à l'occupation, je dirais. L'occupation multiple, quoi. Politique, culturelle, imaginaire aussi. Donc, il faut recréer des imaginaires possibles. Il faut combattre le... Bah, en fait, c'est déjà fait. C'est déjà plié, quoi. Et le fait d'occuper le terrain, ça permet de recréer une possibilité de dire, bah, en fait... Non, non, c'est pas fait du tout. Regardez la preuve. Il y a des choses qui poussent, il y a des potagers, il y a des gens qui occupent, qui s'engueulent, machin. Enfin voilà.
Début 2014, dans le comité, il y avait une personne en contact notamment avec le RESAP, le réseau de soutien à l'agriculture paysanne, qui disait tiens, la journée de soutien aux agricultures, à l'agriculture paysanne, le 17 avril, va peut-être se faire à Arnes. Il y a plus de 400 personnes, de 400 à 500 personnes qui sont venues, enfin une partie d'Arenois, mais surtout d'ailleurs, qui ont débarqué dans le village. Et puis après, on est parti avec des fourches et des bêches vers la friche du Kelbeek pour planter des patates, donc sur le terrain de la prison, avec le message premier de préserver les terres arables et de ne pas les bétonner. Et donc pour la plupart des Arenois, les patatistes, c'était ceux qui occupaient la zone. Parce qu'après, on a fait une ZAD, on a nommé ça ZAD, et donc il y avait ZADIS, patatistes, etc. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on est là pour préserver l'espace vert ? Est-ce qu'on est là pour lutter contre les prisons ? Est-ce qu'on est là pour lutter contre notre société capitaliste ? Est-ce qu'on est là pour l'aspect social ? Comment on se nourrit ? C'est aussi quelque chose qui est plus fédérateur finalement que lutter contre les prisons ou la protection des lapins.
Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'ici à Rennes, ça a enraciné la lutte puisque ça lui a donné un tournant. Ça a donné la suite, l'occupation, une cabane, deux cabanes, trois cabanes, des liens avec d'autres luttes similaires, d'autres luttes de territoire, Notre-Dame-des-Landes, voilà. On a eu un document, mais formidable, de la régie des bâtiments avant la plantation de 2014, qui montrait qu'en fait, planter des patates allait, elle est énorme, la formule, allait amener à une déstabilisation du sol, destiné à accueillir la maxi-prison et donc aller empêcher les travaux, voilà, une formule du style.
Lance des patates, mon amour. Lance des patates, mon amour. C'est bon pour la volaille, ça leur donne bonne mine. Lance des patates, mon amour. Lance des patates, mon amour. C'est bon pour la volaille, ça leur donne bonne mine.
Ici, le fait de planter de la patate, c'est quelque chose de très intéressant pour s'y symboliser, pourquoi pas une forme de résilience alimentaire en cas de siège sur la ZAD, ce genre de choses. Donc les patates, c'est ce qui se fait en maraîchage. Je pense que le rapport investissement et retour calorifique, ça doit être le plus élevé. Ça fonctionne très facilement, la patate, c'est vraiment pas compliqué à faire. Et voilà, en plus, c'est drôle, le mouvement patatiste, en clin d'œil aux apatistes. Moi, ça m'a fait rire, en tout cas, c'est un des trucs qui m'a donné envie de m'investir ici aussi. Donc ouais.
C'est que patate, c'est pour tout le monde. Et que moi, c'est pas long. Voir, et que quand il est jour de. Son. Les journées de patate, et tout le monde il peut. Et qu'il partage avec tout le monde. Hein. C'est comme ça.
Sébastien Kennes, activiste au réseau de soutien à la culture paysanne, et je travaille pour Rencontre des Continents. Moi, historiquement, en fait, ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans les mouvements sociaux dits altermondialistes, et en fait, la lutte qui m'a le plus parlé aux tripes et au cœur, c'est la lutte agricole, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une possibilité et une prise sur l'objet, c'est-à-dire sur l'alimentation, sur la nourriture, sur les sols, sur la terre, sur le paysage, qu'on n'a pas dans d'autres luttes et donc qui favorise la convergence. À Guilanguin, les gens qui sont en lutte contre des projets de contournement routier pour le parc de Péridaïsa.
Je sais pas
pas jusqu'où tu peux aller avec le bus.
Merci, chauffeur.
Voilà, je passe la parole à Jean.
Voilà, merci. Que vous êtes d'abord dire combien j'aimerais jouer de vous voir ici présent.
Donc ici, on est sur un terrain qui ne nous appartient plus, mais qui était occupé par les agriculteurs avant la transformation en terre, ici pour zoning.
Alors je crois que c'est important que nous manifestions notre soutien à ces agriculteurs qui sont ici avec le tracteur ou d'autres qui sont ici. C'est important qu'ils sachent qu'on les soutient. Merci.
Merci pour eux. Est-ce que vous êtes chaud pour planter des patates ? Ouais ! Donc Laurence va nous expliquer quand même pour les quelques urbains que nous sommes à ne pas avoir mis nos mains dans un champ comme on plante des patates. Non mais je rigole, mais je suis l'archétype de femme.
On va mettre une patate tous les 40 cm. Alors votre père, ça va être le tronc de votre corps. Alors, je fais une petite démonstration, ce sera le plus parlant. Tous en ligne. On va d'abord agrandir le sillon. En général, on plante des petites comme ça. Ça va ? Et donc, on en met une. Et puis, 40 cm plus loin, on en met une autre. Et ainsi de suite. Après, on reprend notre outil. Et on va ramener la terre qu'on a préparée là. Et il faut que ça fasse une belle petite butte. D'accord ? Voilà. Et puis j'en ai déjà préparé une autre derrière moi. Où là aussi, on va remettre les patates et puis ramener la terre. Ça va ? Voilà.
Ouais ! Et on le fait en faisant des slogans. Hein. Alors on y va ?
Des patates, pas du béton. Des patates, pas du béton. Des patates, pas du béton. Des légumes, pas du bitume. Des légumes, pas du bitume. Des légumes, pas du bitume.
Donc il ne faut pas oublier que le 17 avril, ça commémore la tuerie qui a eu lieu au Brésil avec des paysans sans terre qui manifestaient pacifiquement dans les rues et qui ont été tués par la milice. Ils voulaient simplement récupérer des terres desquelles ils avaient été expropriés pour pouvoir cultiver, se nourrir et nourrir les populations autour, donc créer des marchés vraiment circuit court. Cette lutte-là, elle est présente encore aujourd'hui, que ce soit au Brésil, en Asie, en Afrique, moins présente chez nous, de manière moins violente, mais ces combats-là, ils sont par rapport à l'agro-industrie qui empêche les paysans de vivre correctement.
Je suis ici pour annoncer une affaire qui se passe partout en Belgique, notamment la vente du patrimoine de nos communes et de ces PAS. Et ça, c'est nos communs qu'on perd. Ça, c'est notre patrimoine, ça, c'est notre capital. Et nos villes et nos autorités publiques sont en train de vendre notre capital. Et donc, ça se passe. Et ça, c'est aussi au détriment de l'agriculture paysanne qu'on veut.
C'est dommage, quand tu vois toutes ces terres-ci qui sont laissées.
Ça.
Chez moi, c'est pareil. Ils ont exproprié 10 hectares là, pour le zoning et il n'y a toujours rien.
Allez, allez, tentez l'expérience de planter des patates. C'est peut-être la seule fois de votre vie que vous pourrez le faire. On sait quand ça commence, on sait jamais quand on arrête quand on plante des patates.
Et avec cette plantation approximative, on espère que les patates vont s'en sortir, c'est tout, qu'elles vont germer. Non, c'est pas gentil. Voilà, mais c'est bien de faire des trucs comme ça et des trucs safe, quoi. Voilà, c'est bien. Moi, je suis tombé dans le petit ravin pour faire une photo, mais c'est tout ce qui pouvait m'arriver. Juste. Et il y avait des orties, putain. Non, je te jure. Mais quand j'étais petit, je m'asseyais toujours sur le nid de fourmis. C'était une spécialité. Puis j'allais pleurer chez ma mère et tout ça. Bon, voilà, mais... voilà, donc il y avait probablement un plant d'orties, je l'ai eu. Bon, je voulais juste parler que des patates et voilà, vous m'avez emmené ailleurs.
Là, c'est... Alors je garde ma voiture là.
Ouais, tu peux faire jusqu'à là-bas.
Allez, c'est reparti alors, ok.
Nous, on va filer les masques aux gens et tout là-bas, les gens viendront de ce côté-là.
C'est mieux, c'est mieux.
Merci Maya, ouais.
Salut, c'est à toi qu'on doit parler. Tu vas t'exprimer pour Marie-Thérèse.
Ouais.
Tu t'appelles comment?
François.
François.
Je vais parler à la fois pour le FLM et pour Marie-Thérèse.
Ok, donc on t'en produit juste comme ça et puis on fait
très bien. Parfait. Et donc c'est à 15, hein, normalement.
Ouais. François.
Et toi?
Anne-Sophie.
Est-ce qu'elle a pas de couleur tout seul?
C'est mieux, hein. Ouais, un peu plus sec. Mais comme ils sont dans les sacs, ils vont pas prendre la lumière.
Ah oui, très bien, merci.
S'il vous plaît. Merci à vous.
Ça va aider à payer les frais d'avocat?
Comment?
Ça va aider à payer les frais d'avocat?
Oui, okay. C'est en fait 3 euros pour la ferme et 3 euros pour les ételés.
Ok,
ouais.
Ça va. Mais moi, je veux bien un paquet.
Un paquet? Pour moi, c'était logique de dire, voilà, j'ai beaucoup de pommes de terre cette année-ci parce que c'était une merveilleuse année de pommes de terre. Pourquoi pas faire une liaison entre ville et campagne, entre activistes et paysans, et nous vendre des pommes de terre en soutien avec votre procès. Et eux, ils répondaient, oui, c'est bien, mais on veut acheter des pommes de terre à un prix juste aussi. Mais dans une année d'abondance, les prix justes, ils tombent, quoi. Et c'est bien d'avoir une groupe d'activistes qui est très soigneuse pour les paysans et qui disent, voilà, non, on va quand même payer le prix juste. Fais ton calcul. Nous, on fait, on vendra ensemble avec toi.
Je suis venu de mon village du Brabant wallon pour être là au moins pendant le temps de midi parce que je trouve ça extrêmement important de soutenir les activistes et je ne comprends pas qu'on leur fasse un procès.
Oui, oui, moi je viens de Liège pour les soutenir.
Je trouve ça courageux et il n'était pas question que je ne sois pas là.
Je suis Geoffrey Players, je suis professeur de sociologie à l'Université catholique de Louvain. Je suis présent en tant que citoyen d'abord, hein. Je pense que c'est important de défendre notre démocratie aujourd'hui. Je suis scandalisé aussi de voir qu'une action pacifique, symbolique, peut mener en justice. C'est incroyable quand même, hein. Mais on voit que ça se multiplie malheureusement. Et puis je dirais que je suis aussi là comme sociologue, parce qu'on voit que ce genre de luttes sont non seulement les plus amusantes, mais aussi les plus efficaces pour dénoncer un problème qui est très invisibilisé, qui est caché. Les lobbies sont par définition discrets. Et donc c'est un problème majeur pour la démocratie aujourd'hui, une menace majeure. Et malgré tout, on en parle très peu. On est à Bruxelles, devant le palais de justice, dans une action de soutien à l'ensemble zoologique pour la libération de la nature.
Alors, aux ZLN, nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on envahit des lieux.
que ce soit des lobbies, que ce soit des lieux de décision politique, pour mettre en lumière les crimes environnementaux commis par les multinationales, l'impunité dont ces multinationales jouissent et l'influence qu'elles exercent sur les politiques publiques. Alors moi, je suis la sous-commandante Lapin. À chaque fois, chacun vient déguisé. Il y en a qui passent des heures à faire le déguisement, comme cette magnifique tête d'écureuil qu'on vient de me mettre en main, qui est vraiment très très belle, très mignonne. Alors pas très visible, ce qui n'est pas très pratique en action, parce que l'espace pour les yeux est tout tout petit. Donc il y a vraiment de tout. Il y a des mammifères, il y a des animaux marins, il y a un crocodile juste devant moi. Il y a beaucoup de mammifères, hein. C'est vrai que ce n'est pas très inclusif ça, mais il y a aussi des oiseaux, il y a parfois des lombriques, pas beaucoup, mais quelquefois on a des chenilles et des trucs de genre. Et puis aussi, il y a des arbres, il y a des feuilles, il y a des fleurs. Il y a un peu de tout ça.
Miaou. Miaou. Oh non, 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 non. Non, non.
Voilà, pourquoi
non,
le
non.
Chat
oh, non.
Allez, Martin.
Non, non, j'ai vraiment pas chaud. En plus, j'ai dit à mon collègue, en venant là, que je détestais qu'on m'interrogeait comme ça. Enfin, que je me sentais pas du tout à l'aise. Je suis désolé.
Sont venus déguisés en animaux pour soutenir le procès. Et j'ai trouvé ça très beau, en fait. C'était magnifique. Parce que ce palais de justice, avec tous ces animaux hauts en couleur, rien que l'image en soi posait pas mal de questions, quoi. Simplement de voir ça, un palais de justice croulant sous les échafaudages, le bâtiment le plus lourd d'Europe, commandé par Léopold II, parce qu'il voulait que les gens sentent le poids de la justice, qui est supposé être effondré depuis longtemps, d'ailleurs. Et tous ces animaux qui sont devant, c'est magnifique. Oui, en même temps, c'est gay. Enfin, c'est gay. C'est chouette de se battre pour ou de faire quelque chose pour quelque chose auquel on croit. Parce que c'est juste de faire ça, c'est tout. Mais c'est le monde à l'envers. Hein. Je veux dire, c'est pas moi qui devrais être sur le banc des accusés. Pour moi, on parle de gens qui participent et qui sont clairement complices de génocide et d'écocide. Mais peut-être que j'agis aussi pour sortir de cette colère, enfin que j'agis. C'est pas faire grand-chose que de faire des petites actions de dénonciation. C'est un bon moyen de sublimer sa colère. Donc quelque part, il y a cette nécessité de la désobéissance. C'est nécessaire de pouvoir dire non au système. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais j'avais 5 minutes pour faire un déguisement, donc j'ai pris un essuie. Bah, un essuie sur la tête et une cage par-dessus. Un essuie jaune, sinon ça fait pas très canari. Bah, le canari en cage, c'est ce qu'on amenait dans les mines pour savoir s'il y avait du grisou. Quand le canari était mort, il vidait la mine. Donc le canari était un espèce de lanceur d'alerte.
J'aimerais appeler Thaïs sur la scène. Thaïs est en train de vendre ces fabuleuses patates que vous avez vues un peu partout à Bruxelles. Superbes patates qui sortent de son champ, qui ont été vendues en soutien aux activistes qui sont en procès aujourd'hui. Donc ces fabuleuses patates sont en vente par là-bas.
Bonjour tout le monde. Allez, j'étais super heureux d'avoir la possibilité d'avoir une ferme qui pourrait vraiment soutenir leurs actions, parce que nous, on est fort chargés sur le champ. On n'a pas toujours le temps de montrer à tous ces grands lobbyistes, à tous ces grands ministres, à tous ces grands gens sérieux qu'on est enragés et qu'on est en danger en plus et qu'on est en difficulté, qu'on vit chaque jour, on a fait un jour de lutte. Et pour moi, c'était aussi super ravissant de voir que les activistes, ils sont venus nous aider et qu'ils ont vécu cette stress de la vente, de trouver des lieux de vendre le produit, de savoir combien de paquets qu'il fallait faire. Et un jour, ils me disaient, mais Thèse, les pommes de terre, ils sont jusqu'ici et on sait quoi pas faire. Je disais, oui, mais c'est ça la vie de paysan, quoi. Parfois, on ne sait plus quoi faire, mais on avance. Et quand moi, j'ai appris cette attitude, c'est grâce à la fête que j'ai aussi eu un passé comme activiste. Et moi, j'ai vraiment vécu tous ces moments que tu es en stress, que tu es avec un procès, que tu dois passer par voir un juge, que tu es arrêté pour la 10e fois. Et en fait, tout ce stress dans ma vie d'activiste m'aide maintenant à comprendre quand moi je suis paysan et que quand j'ai des journées difficiles, qu'il y aura la possibilité de s'en sortir. Et alors, ce que je dirais avec plaisir à tout le monde qui est ici, c'est de ne pas avoir peur de votre rêve. Et si un jour tu as un rêve de devenir un paysan, vas-y quoi.
Des patates et des luttes. Un documentaire de Hélène Hockey, Pierrette Pastels, Corinne Ricuor. Montage, mixage et création sonore, Flavien Gillier.
Avec Josine, Livia, Cob, François, Camille, Laurent, Turan, Serge, Lily, Florian, Seb, Laurence, Jean, Catherine, Thaïs, Geoffrey, la sous-commandante Lapin, Barbara, Eric, Caroline, Géraldine, Paul et Patrick.
Un projet initié lors d'un atelier du Xara, animé par Guillaume Abgral. Une production Alternative Culture, accompagnée par Bastien, Camille et Carmelo de l'atelier de création sonore radiophonique. Merci à Radio Panique et Bruxelles Laïque. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Et c'est terminé pour ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine avec Tu seras un homme, papa.